aujourd'hui, Praskovia Osipovna, je ne prendrai pas de café, dit Ivan Yakolevitch. Je préfère à la place manger un pain avec un oignon. Pour dire la vérité, Ivan aurait bien voulu goûter de l'un et de l'autre, mais il savait la chose complètement impossible, car Praskovia Osipovna n'admettait pas de tels caprices. Mange du pain, imbécile, pensa la femme en elle-même. Il me restera davantage de café derrière. Et elle jeta le pain sur la table. Ivan Yakolevitch passa, par convenance, un frac sur sa chemise et s'étant installé devant la table, prit du sel, prépara deux têtes d'oignon, saisit un couteau et avec une mine significative se mit à couper le pain. Il le coupa en deux moitiés, regarda le milieu et à son étonnement distingua quelque chose de blacard. Ivan Yakolevitch gratta soigneusement avec son couteau et tâta du doigt. « C'est ferme », se dit-il en lui-même. « Qu'est-ce que cela ?» Il fourra ses doigts et retira un nez. Ivan Yakolevitch laissa tomber ses bras. Puis il commença à se frotter les yeux et retâta du doigt. C'était bien un nez, un véritable nez. Et encore, lui sembla-t-il, un nez ayant une tournure connue. Sa frayeur se peignit sur le visage, mais cette frayeur n'était rien auprès de l'indignation qui saisit son épouse. « Où as-tu coupé ce nez, animal ?» se mit-elle à crier avec colère. « Fripon, ivrogne ! Je te dénoncerai moi-même à la police. Quel brigand ! Voilà déjà trois messieurs qui m'ont dit que lorsque tu te rases, tu tires tellement sur le nez que tu te l'arraches presque. » Mais Ivan Yakolevitch n'était plus ni mort, ni vivant, car il venait de reconnaître que ce nez n'était autre que celui de l'assesseur du collège Colavel, qu'elle rasait le mercredi et le dimanche. « Tais-toi, Praskovia Osipovna, dit-il. Je vais l'envelopper dans un linge et le mettre dans un coin, pour qu'il y reste quelques jours. Ensuite, je l'emporterai. Et je n'y consens pas que je permette de placer un nez coupé dans la chambre, biscuit roussi. Il ne sait que repasser son rasoir. Il n'est pas capable de terminer sa tâche vite et entièrement. Coureur, chenapan. Crois-tu que je vais, pour toi, m'attirer des histoires avec la police ? Ah, tu es impropre à rien. Une bûche stupide. Regarde-le. Voyez. Emporte cela où tu veux. Que je n'en entende plus jamais parler. Ivan Yakolevitch était complètement abasourdi. Il réfléchissait et ne savait pas quoi réfléchir. Le diable sait comment cela se fait, dit-il enfin portant la main derrière l'oreille. Suis-je rentré ivre hier ou non? Cela, je ne puis le dire avec certitude. Mais selon toutes les apparences, voilà une affaire qui me semble extraordinaire. Car le pain, c'est quelque chose qui se cuit, tandis qu'un nez, jamais de la vie. Je n'y comprends rien. Ivan Yakolevitch se tut. L'idée que les agents de police allaient découvrir ce nez chez lui et l'en rendre responsable le plongea dans une prostration complète. Il lui semblait déjà avoir le collet rouge, élégamment brodé d'argent, l'épée, et il trembla de tout son corps. Enfin, il mit la main sur sa culotte et ses bottes, revêtit ses frusques, et au milieu, les lourdes abnomnitions de Praskovia Osipovna entortilla le nez dans un linge et sortit dans la rue. Il avait le dessein de déposer ce nez n'importe où, près d'une borne, sous une porte, ou de le laisser tomber quelque part à l'improviste et de tourner dans une autre rue. Mais, par malheur, il lui tomba sur le dos quelqu'un de connaissance qui se mit aussitôt à le questionner. « Où vas-tu ? Qui vas-tu raser en si bonne heure ?» De telle sorte qu'Ivan Yakolevitch ne put trouver d'abord une seule minute, deux fois ensuite. Il a réussi à laisser tomber le nez. Mais un agent lui fit signe de loin. « Ramasse, tu as laissé glisser quelque chose. » Et Ivan Yakolevitch fut obligé de le ramasser et de le serrer dans sa poche. Le désespoir le saisit, d'autant plus que la foule augmentait sans cesse dans la rue, à mesure que s'ouvraient les magasins et les boutiques. Il se décida à gagner le pont Isakiev. Peut-être, là, trouverait-il moyen de jeter le nez dans la Neva. Mais je fais la faute de ne vous avoir rien dit sur ce qu'était Ivan Yakolevitch. Un homme éminent à de nombreux points de vue. Ivan Yakolevitch, comme tout artisan russe qui se respecte, était un ivrogne invétéré. Et quoi qu'il rasât chaque jour les barbes des autres, il ne se rasait jamais la sienne. Son frac, car Ivan Yakolevitch n'allait jamais et surtout, était de couleur pie, ou plutôt était noir avec des taches jaune cannelle et grises. Le col était lustré, et à la place des trois boutons, on ne voyait plus que des bouts de fil. Ivan Yakolevitch était tout à fait cynique. Quand l'ascenseur du collège Koralev lui disait, selon son habitude, tandis qu'il se rasait, « Tes mains puent toujours, Ivan Yakolevitch. » Alors il répondait, « Pourquoi puerait-elle ? Je ne sais, frère, mais elle pue. » répliquait l'assesseur du collège de Kolavel. Et Ivan Yakolevitch, ayant pris une prise, le savonnait ensuite sur la joue, sous le nez, derrière les oreilles, sous le menton. En un mot, partout où cela lui convenait. Cet honorable citoyen arriva en face au pont Yakiev. Il jeta d'abord un coup d'œil alentour, s'approcha ensuite de la balustrade, comme pour regarder sous le pont s'il se passait beaucoup de poissons. Et tout doucement, il jeta le linge avec le nez.
Je me souviens, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé de voir une commissure. Et mes parents, ils m'en ont beaucoup parlé. Ils me décrivaient ça comme un oasis avec de l'écume, des lumières vertes et bleues, je crois. Enfin, bref, en tout cas, ça ressemble pas du tout à ce qu'ils me disaient. C'est beaucoup plus simple, en fait. C'est beaucoup plus brut. Il n'y a pas grand-chose, mais je suis resté des jours et il faisait chaud. C'était bien. C'était si bien que j'avais plus envie de partir, en fait. J'ai retardé mon départ d'un jour et puis en fait après de deux et je suis resté une semaine de plus. Puis après je suis resté un mois et puis en fait je me suis fondu dans cette commissure et j'étais si bien que je voulais plus bouger. Peut-être que l'œil m'a manqué un peu, mais avec nostalgie et pas sans mélancolie. J'y repensais souvent sans ressentir forcément le désir d'y retourner. Je crois que j'y étais resté suffisamment de temps, en fait. Suffisamment de temps pour avoir envie d'en partir définitivement. Je me rappelle même que je m'étais dit que c'était peut-être pour ça, en fait, qu'une larme n'était jamais... Que les larmes, elles étaient... jamais revenues. Peut-être qu'elles étaient, toutes comme moi, restées un peu trop longtemps au coin de l'œil. Et j'ai quelquefois vu passer des larmes qui me ressemblaient. Certaines, comme moi, se sont arrêtées ici, là. Et d'autres ont continué leur route. Je sais pas où elles sont allées, mais... Moi, au chaud, dans cette commissure, j'étais bien. Et je suis resté.
J'aimerais bien parler avec celui-ci. Il m'inspire. Je sais pas ce que ça signifie exactement. Je sais pas si lui aussi, il inspire. En tout cas, il a l'air vif. Il a le regard vif et préoccupé. Oui, il a l'air d'inspirer, mais vraiment assez rarement. C'est assez étonnant. Sérieux, mais toujours indéchiffrable. Il faudrait que l'on dise quelque chose à propos des visages indéchiffrables. Parce que on ne dit jamais, mais les visages sont chiffrés. Et le sien est définitivement cryptique.
Là, celle-là, là, elle a le visage en passant, quoi. En passant, elle a laissé comme si on y avait foutu un coup de peinture, mais sans faire vraiment exprès. Comme si en passant, elle était passée sous un rouleau de peinture qui lui avait juste fait un cercle, un peu à la Paul Éluard, quoi. Cette espèce de fameux cercle de l'œil. En tout cas, en passant, elle est passée et elle a fait tomber un morceau de sa chose là, de à l'endroit où on met les yeux. Moi, j'ai jamais eu ça, moi. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir avoir ce qu'on nomme depuis le début, ce que les gens essayent de regarder. Enfin, moi, je dis que j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir. C'est juste que peut-être que j'en ai un, mais moi, je l'ai jamais vu. On m'a... Et puis j'en ai... Enfin... Je veux dire, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu parce que je vois pas. Moi, je vois pas et... Et les visages, je les vois pas. Donc, en fait, y a personne qui pourra me prouver que ça existe. Est-ce que quand on voit pas... On a un visage. Est-ce que quand on voit pas, on a un visage? Est-ce que quand on voit pas, on peut voir le visage des autres?
Moi, je vois pas de visage. Je vois des formes. Je vois des formes d'une personne en forme. Une personne en forme de personne. Je vois des traits. Des signes. Je vois pas le visage. Je pense que ce que je vois dans le visage, ce qu'on ne montre pas. Je vois souvent des couleurs. Tiens, cette personne est plutôt jaune, plutôt verte, plutôt orange, plutôt rosâtre. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que là, la personne là, juste en face, on dirait vraiment ma mère. Elle a vraiment le même nez. Même bouche, les mêmes lignes. Elle me fait penser à ma mère dans ce qu'elle ne montre pas. Dans ce qu'elle se garde bien de me montrer. Cette personne en forme de visage dont je ne peux pas le voir. C'est souvent des interfaces. Le truc foutu au milieu entre une face et une autre. Entre moi et l'autre. C'est le lieu de la cité. C'est le lieu de l'homme. Le visage, c'est tout ce qui s'y réduit pas. On peut pas réduire le visage à juste ce qu'il est. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit que le visage il servait à rien, juste à porter les yeux. Personne en face là, ben, elle porte ses yeux, bien précieusement.
La radio n'a pas de visage. Pensée. La radio n'a pas de visage. Du son. Comme une bouche qui voudrait arracher du solide. Dent après dent. Matière sur matière, comme des idées qui viennent, la lumière, l'onde, la pluie. La radio n'a pas de visage, la radio n'a pas d'œil, pas d'a priori, seulement un peut-être, un entendement que, sans savoir pourquoi, indépendamment du pouvoir voir, sans lumière, sans envie d'eux. La radio n'a pas de visage, parce que la radio est aveugle. Soupir, crispe, grésille, sonore, un souvenir à travers la fenêtre, paysage induit, savamment enregistré pour comme figé, une patte figée dans le froid de l'hiver, invisible comme l'hiver qui emmitoufle les nez, les mains, les doigts, ne laissant passer plus que les cils. La radio n'a pas de visage. La radio n'a pas de visage aussi puissante que Samson n'a pas de cheveux. Cassé à travers les ondes, micro, membrane, tympan, battement de cœur en dessous de la peau, imperceptible, comme on s'avance dans le soupirail d'un étang, étendu là, alors que peut-être, entre les vaguelettes, que les vents propulsent à l'envers, bande contre bande, une à une, la radio n'a pas de visage. Une, comme image, une, qu'on peut se construire à l'aide du possible parce que justement figé, pas de contour, pas de creux ni de bosse. Alors il serait possible de, vraiment, il serait possible de, sans jamais savoir pourquoi, après alors que toujours, quand ils veulent justement les regarder, les suspendre, dur, au faciès, la radio, elle, ne veut pas de visage. Et la radio n'a pas de visage. La radio voit comme des chemins pavés de craques, de crocs, d'interférences, de zones blanches. Parce que sous le vêtement en salle de classe, en verre de vin, en vitre de sol, fleurs de page qui se tournent en coin de mic, pourtant, c'est les commissures qui s'évident, c'est les rides de main qui se plissent le matin en fin de tour. Chaque mot comme un sourire, pourtant, mais toujours invisible parce que perceptible en catimini, entre chaque force de mâchoire. Envisager que doucement, au regard d'une rue, il serait possible dire, mot à mot, mal en mer, un peu parce qu'on en a plus envie, un peu parce qu'on n'a plus envie de se taire, alors qu'il y a du bruit partout. Rien à voir, mais tout à imaginer. La radio n'a pas de visage. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun de nos efforts entende. Il faut entendre, et ne pas écouter la musique, mais entendre le souffle caché des musiciens. Couleur après couleur, fleur après fleur, comme le toucher d'un aveugle, coquelicot de saveur instable, lumière des mots que l'on attrape par chance ou par désir, un rendez-vous fixé entre des inconnus qui n'ont jamais vu leur face, un qui a des choses à dire, et l'autre des choses à entendre. La radio n'a pas de visage. La radio n'a pas de visage. La radio n'a pas de visage. Abat les visages et allumez la radio. La radio n'a pas de visage. Alors, ne nous regardez pas. Écoutez-nous.
visage codé. Ébauche pour une étude ontochronologique. Certaines monnaies rituelles du Sepik en Papouasie-Nouvelle-Guinée forment de petites faces faites de vanneries et de coquillages. Les Abelham confectionnent des masques à igname faits pour orner les plus beaux spécimens après une récolte. Le visage paraît comme la signature de l'humain et devient ainsi un des axes principaux des processus d'anthropomorphisme. L'image d'une déité portant visage et corps est profondément ancrée dans l'esprit humain. La monnaie porte elle aussi visage et corps. La monnaie possède une valeur faciale. Les formes de la monnaie vont des disques troués mégalithiques des îles Yap en Micronésie aux plaques ou sonailles en fer forgé diffusées en Afrique de l'Ouest, en passant par les visages du Sepik. En proto-indo-européen, la racine sac, contrat, donne notre mot sacré. Ceci est illustré par le rôle juridique de la divinité indo-iranienne Mitra. Dans sa mutation romaine, Mitra est lui aussi garant des contrats. La face de l'être surnaturel, qui peut être incarné, nous parle des contrats qui fondent nos présences. Le sacré est médiateur, une interface. 1. Point. Sacrilège. Présence. Point. Béthil. Présentation. Point. Idole. Représentation. Point. Icône. Dans les négociations que nous effectuons de contrat fondateur, nous circulons entre trois pôles. La présence à travers le béthyl, la présentation à travers l'idole et la représentation à travers l'icône. Le béthyl est une pierre sacrée qui n'a pas été façonnée par la main humaine. Autrement dit, Akéropoyète. Akéropoyète désigne en général des images, mais le béthyl n'en est pas une. Il met en présence et en jeu la déité de manière différente. L'étymologie suggère que le béthyl est un hébergement pour la divinité. S'il est le lieu de la divinité, c'est qu'il est en dehors d'elle. La négativité se dessine. Pourtant, comme les bulles enveloppes mésopotamiennes préfigurent l'écriture sans la réaliser, la divinité est présente dans le béthyl. Sa forme tient plus de la signifiance que du signe. Peut-être la vénération de l'Akéropoyète, notamment le béthyl, a-t-elle une origine bien plus ancienne que celle des idoles ? Mais qu'elle serait restée discrète. En effet, elle ne laisse aucune autre trace que la subtile érosion de la pierre d'un contact répété. Aucun artefact n'est produit comme support de la vénération. Contrairement au Bétil, l'idole implique un façonnage. Il y a intentionnalité dans la présentation. Ici, nous définirons les idoles comme objets incarnant à la fois intentionnellement et matériellement une forme de déité. L'intention dans la création d'une idole est une nouveauté par rapport au Bétil. La forme du Bétil n'a aucune importance. C'est la matière, lieu de résidence de la divinité, qui est centrale. En revanche, pour l'idole, la déité investit la forme sans devenir pour autant une image. Ainsi, parfois apparaissent les traits d'un visage, aux Cyclades, seulement deux yeux chez les Hittites. Il y a une intention anthropomorphique. Cependant, la présence dans l'idole de l'être surnaturel au sein de la matière reste essentielle. Dans l'icône, la représentation opère une séparation nette entre la substance sacrée, exclue de l'objet de vénération, et la forme qui se centre autour de la visagéité. Le sacré opère toujours un rôle de médiation entre forme, matière et déité. Il assure la présence avec une distance nouvelle qui s'exprime par la représentation. La visagéité, quant à elle, se code, notamment à travers les mains, dans les mudras védiques. Les mudras sont des positions signifiantes de la main dans l'iconographie hindoue et bouddhiste, véhiculant ce que le visage prendrait en charge dans d'autres représentations. Ces trois pôles que sont le Bétil, l'idole et l'icône, trois différents rapports au signe, sont perméables. Les mises en jeu d'un objet de vénération procède de ces trois schèmes en proportions variables. De ces brèves réflexions, nous tirons la grille de lecture suivante. La présence ou l'absence d'une visagéité informe sur le rapport au signe. Nous trouvons aussi dans la combinaison de ces pôles des indices sur les rapports entre matière et forme. Il est morphique. Le culte des lingas, pierre phallique dressée sur un socle, dédiée à Shiva, illustre la façon dont s'articulent les trois pôles. Le linga peut être façonné ou né de lui-même. Le socle symbolise le principe féminin yoni. Tout être, mobile ou immobile, peut être considéré en tant que linga. Linga, signifiant en sanskrit signe, sert donc à désigner autant un principe unique et indivisible que sa manifestation dans l'ensemble des êtres, que des roches naturelles possédant certaines proportions, des bétiles, et enfin des artefacts chargés symboliquement, des idoles. Cette combinaison de caractéristiques propres au bétil et à l'idole s'intègre dans un système iconique représentant les manifestations du principe divin. Effondrement. Point. Iconoclastie. Briser une icône pour à nouveau connaître et ne plus reconnaître. C'est prolonger le mouvement de distanciation du vénéré. Celui-ci retourne à l'infini, qui à son tour englobe à nouveau la matière sous forme de bétil, incarnant le principe un et indivisible de l'informe. L'iconoclastie fait imploser les trois pôles. Claudia Castellucci écrit: leur absence est une puissance à l'état pur, qui vit désormais en reposant sur le corps resté, un corps que tu as évidemment détruit, mais qui grâce à cela parle et transforme le monde. Le caractère essentiel de l'iconoclastie, en effet, est de transformer quelque chose qui avant avait une forme et qui maintenant en prend une autre. Comme on le disait au début, et il est important de le rappeler à la fin, l'iconoclastie n'est pas une annulation des formes, mais une transformation figurative, une véritable transfiguration. Claudia Castellucci, Le syndrome de Platon dans le théâtre des opérations, 1995.
Quoi le bétil, Harold?
Le bétil, c'est une pierre qui est vénérée comme étant la maison d'une divinité, mais qui n'a pas été sculptée, qui a été trouvée.
Forme. Elle a une forme.
La forme importe peu. Ce sont souvent des météorites.
Et Mitra. Pour expliquer ce que c'est Mitra.
Mitra, c'est une divinité indo-iranienne dont le culte s'est ensuite étendu dans tout l'Empire romain. C'est du culte mitraïque romain dont nous avons le plus de traces. La légende de Mitra, telle qu'elle est considérée en tout cas dans l'Empire romain, c'est qu'il émerge de la pierre. Avant de tirer une flèche dans une roche et d'en faire jaillir une source. Ensuite, il poursuit un taureau. Avant de le tuer, et en le tuant, restaure l'équilibre de l'univers qui avait été perturbé.
Et donc l'idole est la présentation, et l'icône la représentation.
Exactement. Avec l'idée que dans la répétition qui est induite par le mot représentation, il y a une distance qui s'instaure entre la chose qui est représentée et la chose représentante. Cette distance, qui est le fruit d'une répétition, c'est la base de ce que nous considérons comme étant notre langage. Alors que dans l'idole, qui suppose une présentation, c'est-à-dire une intentionnalité, mais pas de distance.
Et quand tu dis le sacré est médiateur, il est une interface. Est-ce que tu pourrais expliquer ?
Eh bien...
Qu'est-ce que tu entends par interface ?
J'entends par interface le troisième terme essentiel à tout échange, qui est, on pourrait dire, un terme de reconnaissance, avec toute la polysémie que le mot implique. C'est-à-dire, je reconnais que cet objet est sacré, que cet objet a une valeur. Je te reconnais en tant qu'humain, et c'est ainsi que nous pouvons dialoguer.
Merci Harold.
Merci Ilan. À bientôt.
Après ta séance d'UV, y'a rien de grave à part ces verres de liquide alcoolisé. J'ai joué avec le feu et puis j'ai fini carbonisé. On va tous les corriger pourvu qu'ils n'achèvent de là. Parce que leur flot est non potable, ils feront de l'aquapera. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule à part l'odeur de cet after? J'ai la beubar taillée avec ses quatre ou ses quatre heures. Et puis c'est ça tous les quarts d'heure, j'ai une lueur dans les yeux. Ne me cherchez pas, non je n'ai pas peur, je suis d'une humeur cancéreuse. Y'a des journées de merde et y'a des nuits torrides. Marre de bouffer des raviolis buitoni. Rien de grave, pour l'instant on descend une petite bibine. J'ai le diable au corps alors j'attends la justice divine. Pourquoi tu parles sur mon dos, t'as plein de bave. Quand on n'a pas perdu la vie, y'a rien de grave. Tu pourras jamais nous tester, les miens le savent. On partira les pieds devant, les mains sales. Pourquoi tu parles sur mon dos, t'as plein de bave. Quand on n'a pas perdu la vie, y'a rien de grave. Tu pourras jamais nous tester, les miens le savent. On partira les pieds devant, les mains sales.
Ma gueule, ma gueule, ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule. gueule, ma gueule, ma gueule.
Je prends tout effet pour souffrir, le temps passe vite et les rêves d'ado périssent. On encaisse les coups durs en espérant que les hématomes guérissent. J'essaie de positiver, mais l'avenir fait des coups de slarvie. Les déceptions s'enchaînent, j'ai dégusté mais pas perdu le goût de la vie. Je veux savourer les bons moments que tous les soucis me gâchent. J'essaie de faire bonne figure face au problème que mon faux sourire cache. Je relativise car même une belle histoire peut se finir dans le quart d'heure. Faut rebondir même si tu tombes de haut comme Félix Bunkartner. C'est une démocratie de belles paroles mais ça part en bluff. Je crois on voit des cafés qui cognent et des femmes coquettes. C'est pas marrant ce que je vois, des politiques dans leur fauteuil qui te balancent leur loi. Pour ça que la violence passe en force comme leur connerie d'article 49.3. Faut qu'on s'active, c'est vrai, ne pas stagner entre Patrick et Flemme. J'essaie de la faire chaque soir, pour ça que je me lève avec de la mine défaite. La haine est comme un jerrycan d'essence déversé sur le bûcher. Je suis pas une tête d'ampoule, mais j'ai le moyen de t'éclairer sur le sujet.
Pourquoi tu parles sur mon dos, t'as plein de bave. Quoi qu'on n'a pas perdu la vie, y'a rien de grave. Tu pourras jamais nous tester, les miens le savent. On partira les pieds devant, les mains sales. Pourquoi tu parles sur mon dos, t'as plein de bave. Quoi qu'on n'a pas perdu la vie, y'a rien de grave. Tu pourras jamais nous tester, les miens le savent. On partira les pieds devant, les mains sales.
Ma gueule, ma gueule, ma gueule.
Il est 8h53 sur le plateau de La Plus Rebelle, 102.2. Et vous êtes sur le plateau de Dormir Debout ce matin. On a eu un petit peu de mal à se lever. On a beaucoup pensé aux yeux, à la bouche, aux oreilles. On a passé une semaine à regarder des visages, à essayer d'écrire dessus. Franchement, vous êtes beau, vous êtes belle. À vous regarder, je me dis que le monde n'est pas complètement perdu. Qu'il nous reste une lueur d'espoir dans ses yeux, dans ses bouches. Et je pense qu'il y a encore des choses à dire. Je vous entends dire des choses. Plein de choses qui portent espoir. Alors nous... on s'est réunis avec Harold, Kostia. Puis on a essayé d'écrire sur le visage. Essayer de donner une petite lueur poétique à ces jours qui peuvent paraître fades. Mais on tient le coup, on tient bon. Même si bon, on a écouté le discours de politique générale de Bayrou. Et eux, je sais pas si vraiment ils tiennent le coup. Faut dire, il avait un petit peu de céleri remoulade sur le coin de la bouche. Et on dirait qu'il avait pris son texte peut-être 50 secondes avant de parler au micro. Enfin bref. En tout cas, nous, on était contents de faire ça. Moi, ça m'a plu. De vous regarder. Et de vous poser la question de comment vous décririez votre visage. Qu'est-ce qui se passe dans votre visage? Est-ce que vous l'aimez, votre visage? Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, le visage, je sais pas, mais par contre, je déteste les Arabes. » Super. Super. toi tu viens avec toutes tes bonnes intentions, tes questions. T'as pris ton petit micro, ta fro aux mains. Et c'est ça qu'on te répond. Bon, faut dire, je suis pas allé dans le bon quartier. Enfin, quand même, quoi. On en arrive à dire des trucs pareils, quand même. C'est dingue. Moi, je trouve ça dingue.
Qui jouait, moi je n'y prends pas garde, pourtant je le regarde, je le trouve fort laid. Tout à coup, quel prodige, il me passe un vertige. C'est mon nez, c'est mon nez. C'est le nez que le ciel m'a donné. C'est mon nez, c'est mon nez. C'est le nez que le ciel m'a donné. Approche davantage, qu'as-tu sur le visage? Cette chose sans nom, cette fleur bourguignonne qui rougit et bourgeonne. Est-ce un coup de poing?
Non.
Est-ce un nez de théâtre ou bien est-ce un emplâtre?
C'est mon nez, c'est le nez que papa m'a donné. C'est mon nez, c'est mon nez, c'est le nez que papa m'a donné.
Mère, quelle est-elle?
C'est une demoiselle.
Où reste-t-elle?
Là.
Que fait-elle ta mère?
Maman est couturière.
Son nom? Quel mystère, viens embrasser ton père. C'est mon nez, c'est le nez que le ciel m'a donné. C'est mon nez, c'est mon nez, c'est le nez que le ciel m'a donné.
Dormir debout.
Position verticale, mentalité horizontale.
Dormir debout.